justement, à propos des représentations, je voudrais revenir sur le petit extrait que vous présentez de la psychologue scolaire, parce que il pourrait y avoir un malentendu aussi sur la surinterprétation qu'on en fait, c'est-à-dire que ce qu'elle décrit, c'est aussi une réalité, notamment qui est très bien documentée en ethnopsychiatrie, c'est-à-dire qu'on peut, à cause d'un plurilinguisme, ou d'une forme en tout cas de plurilinguisme, arriver sur des clivages, notamment intrapsychiques, qui peuvent aller jusqu'à la pathologie, donc c'est une réalité. Ça veut pas, mais je veux vraiment développer, parce qu'effectivement c'est très important de le faire à mon avis, mais vous pouvez m'aider. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité et que le plurilinguisme détermine la schizophrénie, pour aller vite. On est clair là-dessus. Cela dit, notamment en psychopathologie et notamment par le retour, et Marie-Rose Moreau avec Dalila Rezou par exemple travaille beaucoup là-dessus, ils font des activités d'éveil aux langues et d'approche plurielle dans le cadre clinique pour restaurer du lien entre les langues, qui permet notamment à des enfants qui sont dans les troubles profonds du langage de restaurer aussi cette fonction-là. Donc c'est très important de... Peut-être ce qu'elle disait là, c'est pas une représentation négative en fait sur le plurilinguisme. Vous la connaissez peut-être mieux, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi une réalité et c'est très encourageant, parce qu'on voit aussi que justement la construction d'un plurilinguisme plus ou moins symétrique, mais en tout cas dans une dynamique interlangue, est une source à certains endroits de santé mentale, et que nous, quand on travaille là-dessus à l'école, on est aussi dans de la prévention de difficultés d'apprentissage parfois, mais aussi de façon beaucoup plus éloignée, hein, de prévention aussi et d'accompagnement dans la construction d'individus qui soient solides et qui soient équilibrés.
Je suis tout à fait d'accord, ça existe, mais enfin c'est quand même des cas extrêmes. Là, c'était une généralisation, c'était présenté comme une généralisation, hein, pour les élèves. C'est de même que, enfin, elle a aussi tenu un discours sur le fait que parce que les enfants à l'âge de 3 ans étaient plus avec leur mère et étaient mis avec leurs frères et sœurs, que du coup ils étaient tous malades mentaux, hein. Je sais plus si elle a dit psychotique ou schizophrène, mais bon voilà, donc il y a une sorte de généralisation qui est liée quand même à une forme d'ethnocentrisme, et voilà. Mais après, oui, effectivement, il y a un rôle de prévention, ne serait-ce qu'en termes de valorisation des langues, mais moi je me demande quand même dans ces enquêtes-là quelle est la part de fragilité de la personne. De dire que c'est le plurilinguisme qui c'est, voilà.
Je voudrais savoir s'il existe des pays relativement exemplaires dans ce domaine et ce qu'ils font.
Pays exemplaires. Dans l'ensemble, quand on regarde un petit peu les résultats des recherches dans le monde, on est plutôt toujours dans le même questionnement sur il faudrait peut-être arriver à décloisonner, aller vers une éducation multiple, multilingue, plurilingue. Après, exemplaires, pas à ma connaissance, mais des expériences dans ce domaine-là, il y en a un peu partout, quoi. Mais je suis pas sûre qu'il y ait un système éducatif dans le monde qui soit basé sur ce principe-là. Je ne sais pas si les collègues...
Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas s'il y a dans les pratiques scolaires quelque chose d'exemplaire, mais ce qu'on constate dans certains pays, c'est, dans de nombreux pays, c'est que le plurilinguisme est de fait et ne pose pas de problème.
Oui, c'est ça. Parfait.
Je veux dire, en Inde, par exemple, il n'y a pas de cloisonnement, mais il y a une organisation d'usage des langues et tout le monde est plurilingue. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais de fait... Ce plurilinguisme, il est complètement intégré, même pas forcément conscientisé, mais complètement intégré, il s'interroge pas comme nous on peut l'interroger. De même que des personnes plurilingues, bon, je pense à Christine Hello qui l'avait dit une fois, ou à une collègue, Diana Lissimon, chercheur, qui dit, mais il y a des moments où on se pose des questions que les plurilingues eux-mêmes ne se posent pas. Parce que c'est complètement, ils se posent pas le plurilinguisme par rapport à un monolinguisme, ils sont dans leur conception d'être comme un plurilingue.
Mais en fait, le plurilinguisme pour les enfants en Guyane ou pour les adultes en Guyane, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est la vision qu'on leur renvoie, notamment quand même dans le système éducatif. Hein. Mais a priori, oui, effectivement, c'est pas un problème. Ils le vivent très bien, a priori.
Je profite pour rebondir sur ce questionnement à propos de Oui, Claude Cortier, enseignant-chercheur spécialisé sur l'éducation biplurilingue, ex-chercheur à l'INRP. Pour rebondir sur la question posée par madame, en fait, dans ce qui a été dit ce matin, j'ai travaillé pendant 8 ans au Maghreb, les 8 dernières années. Donc ça peut expliquer un certain nombre de choses et de distanciations par rapport à l'éducation nationale française, mais on est quand même dans une situation qui est vraiment encore une situation coloniale en Guyane, d'après ce que vous nous avez dit. Or, avant que je parte à l'étranger, je travaillais ici au sein de l'équipe École et Plurilinguisme. Il y avait quand même des pistes qui avaient été dessinées avec un groupe d'enseignants-chercheurs auquel vous avez largement collaboré, vous, Sophie Albi, puisque votre thèse portait sur la comparaison entre le français est une langue amérindienne. Donc la piste des médiateurs avait été quand même fortement appuyée. Aujourd'hui, vous ne nous avez pas dit quelle était la part d'élèves qui pouvaient bénéficier des dispositifs spécifiques, que ce soit l'enseignement bilingue ou l'enseignement via les médiateurs par rapport à l'ensemble des élèves. Donc si vous avez ce chiffre, je serais intéressée pour l'avoir. Je voudrais aussi ajouter une chose qui m'interpelle, c'est que depuis à peu près 7-8 ans, l'Agence française de développement, qui intervient dans beaucoup de pays africains, s'est associée à l'Organisation internationale de la francophonie, à l'Agence universitaire de la francophonie, pour financer des travaux de recherche et d'appui à l'enseignement des langues nationales dans 8 pays d'Afrique subsaharienne, les projets LASCOLAF et ELAN. Et donc, dans ces projets, effectivement, il y a des travaux d'équipement linguistique, d'élaboration didactique, qui essayent justement de mettre en place pour le moins un bilinguisme de transition dans ces pays, avec un financement non négligeable de l'AFD. Enfin, ils ont quand même donné 4 millions d'euros. Ça interpelle quand même. Moi, je n'arrive pas à comprendre que l'éducation nationale, qui a semblé prendre dans les années 2000 la mesure des choses, qui a fait semblant, mais bon, vous êtes sur place, vous savez mieux que moi. Enfin, on a eu l'impression que ça allait bouger un peu, et finalement, les dispositifs n'ont pas évolué. Donc, je suis vraiment alarmée par le fait que cette situation perdure.
Bon, déjà, il y a quand même plusieurs cas de figure, c'est-à-dire que les dispositifs d'enseignement bilingue et les médiateurs culturels et bilingues, c'est les ILM aujourd'hui, les intervenants en langue maternelle. Ces dispositifs-là, ils peuvent fonctionner dans certains endroits en Guyane, mais la réalité, c'est qu'il y a des classes où il y a 10, 15, 20 langues parlées, donc là, il faut trouver d'autres choses, du type éveil aux langues et autres. Déjà, il faut quand même séparer ça. J'ai pas en tête les chiffres, ça s'est beaucoup développé, le dispositif des intervenants en langue maternelle, mais pas forcément dans le sens qui était pensé au départ. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, quand on avait monté le programme médiateur culturel et bilingue, on était quand même parti dans l'idée d'une alphabétisation en langue maternelle, d'un travail jusqu'à la fin de l'école primaire. Mais on voit que progressivement, ça a été ramené à l'école maternelle et qu'il y a eu dès le début un refus total, par exemple, que les élèves soient alphabétisés dans leur langue. Ça, c'était un point de blocage. On ne peut pas faire de l'apprentissage de la lecture dans une autre langue que le français. Bon, ça s'est bien développé et en plus, ça s'est structuré. On a fait un rapport avec une ANR il y a quelques années où justement, il y avait des aberrations. C'est-à-dire qu'il y avait certains élèves qui étaient une demi-heure avec l'ILM, d'autres qui étaient 5 heures avec l'ILM. Là, il me semble que dans les derniers textes, ça s'est quand même stabilisé. Ils ont droit à 3 heures par semaine. Voilà, c'est l'avancée qu'il y a eu récemment. Les ILM sont aujourd'hui contractuels, c'est-à-dire qu'ils occupent des postes d'enseignants, mais comme contractuels, ce qui est mieux qu'avant parce qu'ils étaient sur des emplois précaires. Alors, ils ont eu les emplois jeunes et puis tous les systèmes d'emploi précaires. Donc, il y a quand même une amélioration de ce point de vue-là et il y a toujours une volonté aujourd'hui de développer ça. Et d'ailleurs, sur la dernière loi d'orientation de refondation de l'école en 2013, alors je sais plus, c'est l'article 45 ou quelque chose comme ça, c'est dans l'outre-mer ou dans les outre-mer, des dispositifs spécifiques sont mis en place pour les langues amérindiennes et les langues créoles, et ça renvoie clairement à ce dispositif-là. Donc il y a une forme de reconnaissance. Maintenant, moi, Il y a 20 ans, moi, j'ai pas l'impression. Quand on a commencé à mettre tout ça en place, moi, je trouvais pas que l'école était vraiment motivée pour aller plus loin. Aujourd'hui, je trouve que ça bouge quand même. Au moins, ce qu'on disait hier, hein, je veux dire, au moins, c'est devenu politiquement correct de pas critiquer le plurilinguisme. Bah oui, mais c'est déjà une avancée, quoi. Donc après, ça veut pas dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Moi, je trouve que c'est quand même positif. Après, sur les questions. Les analyses qui sont faites de système éducatif en Guyane, oui, vont dans le sens d'analyse de système éducatif dans des contextes postcoloniaux, quoi. Après, il faut quand même savoir qu'en Guyane, ça dépend de l'article 73 de la Constitution. Alors, c'est pas l'article 74 qui va vers plus d'indépendance, mais l'article 73 autorise à des adaptations dans le contexte guyanais. Donc là, c'est aussi au niveau local. Quelle est la volonté politique locale de mettre en place des lois d'adaptation, parce que ce serait tout à fait possible, hein. C'est pas que l'État, c'est pas que l'éducation nationale, c'est quelle est la volonté politique. Il n'y a pas forcément beaucoup de demandes là-dessus, hein.
On va laisser Mélanie réagir.
En fait, c'est par rapport à ce que vous disiez, madame, il y a peut-être une difficulté qu'on a, parce qu'elle nous est tellement familière qu'on n'a pas pensé à l'évoquer, je pense. On a parlé de la formation des professeurs et la collègue rappelait tout à l'heure qu'effectivement, on forme, mais les professeurs repartent. Mmh. Donc, je ne dis pas que la formation est optimale et que c'est de la faute des professeurs qui repartent, mais c'est vrai que c'est quand même parfois un peu épuisant, cette dynamique-là. Il y a aussi autre chose, ce sont les capacités d'accueil. Chaque année en Guyane, il arrive l'équivalent d'un collège en termes de nombre d'élèves sur le territoire. Or, on ne construit pas des collèges assez vite. Et on n'arrive pas à accueillir les élèves et encore moins à les accueillir comme il faudrait qu'on les accueille. Ces difficultés d'accueil, du coup, je pense qu'elles, finalement, le fait de plonger comme ça des élèves dans une grande difficulté dans les classes sans structure spécifique va jouer un rôle très négatif dans l'image du plurilinguisme qui devient de fait très très compliqué à gérer pour les enseignants quand il n'y a pas eu ces structures d'accueil. Et c'est vrai que le CASNAV en Guyane, c'est très très compliqué pour toutes les personnes qui collaborent avec le CASNAV en Guyane, parce qu'on est dans une impuissance. C'est terrible, hein. Les réunions du CASNAV en Guyane, c'est absolument terrible. C'est-à-dire qu'on prend les dossiers, on regarde les élèves qui vont bientôt avoir 16 ans en se disant, bon, bah, du coup, cela, c'est bon. Enfin, vous voyez, on a cette difficulté-là. On n'arrive pas à accueillir les élèves. Et l'autre conséquence, c'est aussi qu'on a des collèges qui sont tous avec des très gros effectifs. Il y a énormément de collèges, 800 en Guyane, donc conçus pour 800 élèves. Donc, déjà, ce sont des gros collèges. Il y en a bien sûr dans l'Hexagone, mais c'est vrai que c'est pas optimal. Et en plus, ces collèges 800 comptent en général jusqu'à 1100 élèves. J'exagère un peu, 1000 sans aucun problème, et parfois un peu plus. Donc tout ça, sur le climat scolaire, etc., a un rôle effectivement extrêmement négatif aussi.
Donc, moi, je trouve que c'est intéressant, tous les échanges que nous avons sur la Guyane, puisque nous avons mis la focale sur la Guyane. Mais il me semble aussi qu'il ne faut pas rester dans l'exotisme de la Guyane et pouvoir ramener tous les propos de Sophie, les propos de Mélanie ce matin, à qu'est-ce que ça nous renvoie, nous, par rapport aux enseignants qu'on rencontre, à l'état de la visibilité, non-visibilité, du plurilinguisme des élèves dans les classes que vous fréquentez. En tant que formateur, accompagnateur.
Juste une question par rapport à votre expérience. Vous dites, vous nous avez bien décrit comment que ces compétences plurilingues, qui sont là, n'influent pas positivement sur l'apprentissage. Alors, quand vous dites, on ouvre là chez nous, tous les élèves apprennent à l'école trois langues. Et comment est-ce que vous pensez que ce n'est pas un problème que cet enseignement-là n'est pas conçu comme un enseignement plurilingue, et qu'il y a peut-être là un frein à pouvoir s'appuyer sur ce qu'on apprend dans en fait trois disciplines, français plus deux langues étrangères, et puis toutes les langues qu'on utilise dans les autres disciplines qui sont parfois, par exemple en mathématiques, pour moi assez ésotériques. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait être intéressant de concevoir l'enseignement des langues, de toutes les langues, comme un enseignement plurilinguiste?
C'est-à-dire l'enseignement des langues, l'enseignement des LVE?
Du français, des langues vivantes étrangères, oui, oui, voilà, bah, des langages.
Oui, oui, c'était le sens de la petite conclusion sur Ophélia, c'est-à-dire Ophélia Garcia, c'est-à-dire l'idée d'aller vraiment vers une éducation multiple, multilingue, où l'ensemble...
Alors, si vous pensez ça, quels sont les leviers? Parce que vous avez bien dit que les élèves utilisent parfois l'autre langue parce qu'ils ne savent pas faire autrement, mais... Quand ils maîtrisent plusieurs langues, ils s'appuient pas toujours sur la même langue pour dire la même chose. Et est-ce que vous avez des renseignements là-dessus? Quand est-ce qu'on utilise quelle langue?
Ça, c'est très variable. Il n'y a pas une seule réponse à cette question-là. Sur les leviers, en gros, pour moi, le premier levier, c'est de partir du bas, c'est-à-dire de partir des pratiques des enseignants. Et d'essayer de travailler, mais de passer le cap, de dire bah, y a plein de choses qui se font, c'est bien, mais d'arriver à formaliser, à didactiser pour faire bouger les choses dans l'autre sens, en fait. C'est-à-dire d'essayer moi, le problème que j'ai, je vais le dire clairement, hein, je suis toute seule dans le domaine en Guyane, je peux pas, à moi toute seule, avoir l'ensemble des pratiques et en faire et pouvoir en arriver à dire ça a l'air de fonctionner, on va plus loin, on didactise, ça peut-être que ça fonctionne moins bien, etc. Pour ça, il faudrait toute une équipe qui se mette dedans, mais dans l'idéal, il faudrait que ça soit avec le rectorat. Mais pour ça, il faut avancer un peu plus. Après, sur les effets positifs du plurilinguisme, il y a tous les travaux de l'équipe de Nantes sur les effets positifs du bilinguisme quand il est enseigné à l'école dans le cadre... En gros, dans les enquêtes qui ont été faites en Guyane, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, dans les résultats, c'est-à-dire qu'il y avait des effets positifs chez les élèves, à partir du moment où il y avait au minimum, alors c'était entre 3 et 5 heures par semaine, 5 heures c'était mieux que 3 heures, et que c'est surtout ça se faisait dans la continuité. C'est-à-dire que si on fait ça qu'une année ou que deux années, ça n'a aucun effet. Si on le fait sur toute la scolarité de l'élève, au moins jusqu'à la fin de l'école primaire, plutôt jusqu'à la fin de l'école primaire au minimum, là il y a des effets positifs en lecture, en mathématiques, dans la communication. Donc rien que d'avoir des dispositifs qui permettent que les élèves soient en contact avec les langues au moins 3 heures par semaine et sur une longue durée, pas seulement à l'école maternelle, là on voit des effets positifs, mais ça demande peut-être plus que ce qui se fait en Guyane à l'heure actuelle. Par contre, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, ça, ils ont réussi à le mettre en place.
Bon, à savoir aussi, pour les travaux qu'on a suivis d'autres collègues, et je pense à Lucie Nussbaum, qui travaille à Barcelone, en tant que chercheur, mais avec des équipes mixtes de terrain de formateurs et d'enseignants, que déjà, dans des situations scolaires... où on autorise symboliquement et pratiquement les élèves à penser et peut-être et à parler dans une autre langue autour d'une même tâche scolaire. L'exemple qui était pris, c'était un cours de SVT qui se déroulait en français, on est à Barcelone, hein, se déroulait en français, mais où les élèves avaient différentes langues à leur répertoire, que l'objectif de la tâche c'était de comprendre tel que concept biologique, je ne sais plus lequel, et que ça c'était important dans les recherches documentaires, que ça soit sur internet ou pas, dans les échanges entre groupes d'élèves, etc., que les langues puisse être utilisée quelle qu'elle soit, mais par contre que l'objectif fixé, de formalisation, puisqu'on était en cours de français, on allait formaliser le tout en français. D'accord ? Donc, est-ce que nous, déjà, on en est à ce stade-là d'autorisation de certains enfants qui peut-être pourraient acquérir une notion, une tâche, autorisation, ne serait-ce que symbolique, de pouvoir penser dans sa tête et compter dans sa tête, pas forcément qu'en français, pourrait l'aider à avancer au niveau de la tâche, de progresser dans ses apprentissages et ses acquisitions. Vous voyez ce que je veux dire en termes d'auto?
Un petit exemple, dans le cadre d'une formation, justement, on travaille avec des enseignants de classe d'inscription, donc de référence, et ils ont la question de qu'est-ce qu'on fait avec un élève allophone arrivant quand il arrive, en cycle 3 par exemple, et si on avait étudié le cas d'un élève qui arrivait, qui avait déjà été à l'école, donc il savait écrire dans sa langue, une situation de production d'écrit en CM2 par exemple, classique, hein, je vais pas détailler ça. Qu'est-ce qu'on fait avec cet élève allophone? Est-ce qu'il est décroché? Est-ce qu'il est sur un ordinateur avec un casque? Est-ce que... Non, il peut, si on arrive à lui faire passer la question de la consigne, juste la consigne, il peut produire dans sa langue, il peut écrire dans sa langue. Après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ben, ça, c'est un support écrit, il a réfléchi, il a organisé ses idées, donc il est rentré dans une production d'écrit comme les autres élèves. On pourra pas corriger, on pourra pas, d'accord, mais il peut ramener par exemple ce texte dans la classe du PE2A, et ce texte qu'il a produit dans la classe d'inclusion, en UPE2A, ça va être un support d'oral, parce qu'il va devoir expliquer ou trouver des mots ou faire des dessins et communiquer ce qu'il a écrit dans sa langue en français. Un petit exemple.
Enfin,
on s'autorise à faire ça.
Oui, c'est vrai que le dire explicitement aux élèves, alors peut-être même à d'autres moments dans la scolarité, pas seulement quand ils arrivent, parce qu'en fait, on se rend compte qu'au bout d'un moment, ils mettent le français ici. Nous, on l'a vu quand on a mis en place les séances d'éveil aux langues et au langage, mais au début, ils ne voulaient même pas nous dire qu'ils parlaient une autre langue que le français. C'était le refus total, et ils en arrivent vraiment à s'interdire de mettre en avant ces compétences-là. Et on commence même d'ailleurs nos séances maintenant, pas par leur langue à eux, commence par d'autres langues pour leur montrer que la classe, ça peut être un espace plurilingue, et progressivement on les amène vers leur langue à eux. Mais j'ai une élève, j'ai le cas d'une élève qui a mis 5 mois à accepter de nous dire une phrase en portugais. Et donc on voit bien qu'ils ont complètement intégré le fait qu'à l'école c'est le français, même si on leur interdit pas, le simple laisser faire est peut-être pas suffisant. Enfin, je voulais rebondir sur ce que tu disais, il faut peut-être autoriser et le donner même comme consigne, quoi.
Mais c'est aussi les pratiques de langue dans l'école, dans les cours de langue. Est-ce qu'à partir du moment où on franchit la porte, c'est l'anglais que l'anglais, on n'a pas le droit dans la construction de la langue vivante, de passer par autre chose et qui finalement peut créer des blocages cognitifs, alors que si à certains moments on pouvait mobiliser le français pour apprendre l'anglais ou mobiliser l'anglais pour apprendre l'allemand ou l'espagnol, est-ce que c'est cette conception plurilingue de l'individu qui n'est pas seulement pour les enfants allophones ou pour les enfants en Guyane ou pour les enfants de Créteil, mais qui est bien aussi dans la conception qu'on peut avoir de l'apprentissage des langues, des acquisitions des langues et de faire vivre les langues pour chaque individu, où on est dans une dynamique d'apprentissage des langues et non pas d'apprentissage de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol ou du français.
Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Marie-Odile et la question que posait monsieur, moi ça me fait penser aussi aux travaux de Laurent Gaillot en Suisse sur la question de la didactique intégrée du plurilinguisme, où justement l'idée c'est de là encore de ne pas cloisonner les langues et de partir sur toutes ces approches plurielles de comparaison des langues, etc. Et ça me fait aussi penser, alors il y a une conférence d'ailleurs de Laurent Gaillot sur le site de ELSE qui est très intéressante, où il repart des définitions du bilinguisme et du plurilinguisme basées sur la notion d'usage et de besoin des locuteurs. Donc c'est une conférence qu'il avait donnée ici même. Et ça me fait penser aussi à un dispositif qui est utilisé dans les écoles AEFE, les écoles françaises à l'étranger, qui s'appelle les duettes, par exemple, j'ai l'exemple au Guatemala où j'avais une étudiante qui a fait son stage à l'école française, au lycée français du Guatemala, où ce dispositif des duettes, il y a un enseignant d'espagnol et un enseignant de français dans la même classe au même moment, et il y a une libre circulation de la parole, que ce soit en espagnol ou en français, et un travail par exemple qui peut être sur de la grammaire ou de la littérature ou des maths, mais qui va se faire faire avec les deux enseignants et dans les deux langues de façon mélangée et non cloisonnée. Et ça, c'est un dispositif qui me paraît aussi intéressant à explorer.
Oui, donc tu viens d'utiliser le terme de mélanger, hein, qui est revenu à plusieurs reprises dans les exposés de ce matin, dans les réactions, et puis hier aussi. Et un terme qui est revenu aussi de manière assez récurrente dans les interventions, c'est celui de représentation et du poids des représentations des enseignants, des élèves, enfin des locuteurs, hein, les représentations ordinaires qu'on peut avoir sur les langues, quelle conception on a de ce qu'est une langue. Je crois que c'est ça qui est en jeu aussi, et c'est peut-être... C'est peut-être une question qui serait intéressante à réfléchir d'un point de vue de formateur, comment on travaille sur ces représentations. Donc, par exemple, celle du mélange, qui est très souvent connotée de manière négative, hein, on l'a vu. Donc je peux faire par exemple le lien avec le support qu'on vous a donné hier, I live in New York but je suis née en Haïti. Donc une activité d'éveil au langage et aux langues qui avait, entre autres, pour objectif de faire prendre conscience aux élèves, mais aussi aux enseignants quand on l'utilise en formation, que le mélange, l'alternance, le translanguaging, comme on l'appelle de plus en plus souvent aujourd'hui pour justement mettre l'accent... sur le fait que les conceptions qu'on a en général des langues nous viennent de modèles linguistiques, hein, les linguistes ne sont pas pour rien dans les représentations qu'on a des langues, de modèles avant tout monolingues. Donc le modèle, le standard, l'étalon linguistique qu'on a quelque part dans la tête, c'est un système linguistique homogène, bien propre. Bon, c'est peut-être à questionner, hein. Ça c'est une construction des linguistes et reprise par les institutions scolaires, les processus de standardisation, etc. Donc tout ça, peut-être qu'il faut qu'on arrive à s'interroger là-dessus aussi en formation. Et donc dans le support « I live in New York, but je suis née en Haïti », le rap qu'on n'a pas travaillé hier, qui vient à la fin, le texte de rap... qui constitue un des supports d'activité dans ce module, a pour objectif de faire repérer, donc c'est un travail méta-linguistique se donne pour objectif de un repérage de règles d'alternance codique. C'est-à-dire que les élèves travaillant sur ce rap en plusieurs langues sont capables d'énoncer des règles de grammaire de l'alternance codique, hein, des règles, des régularités dans la façon dont on alterne les langues. Je ne sais plus, tout à l'heure, je crois que c'est Jean-Luc qui rappelait, on ne mélange pas n'importe comment, je ne sais plus qui a dit ça. Donc quand on mélange, on ne mélange pas n'importe comment. Les alternances codiques se font selon différentes fonctions, différentes... règles, enfin, qui ont été décrites. Hein. Donc on peut aussi, à partir de ce type d'activité, peut-être faire réfléchir à des fonctionnements ordinaires du langage qui sont exclus de la réflexion métalinguistique à l'école, souvent.